car tout homme sera salé de feu. Marc chapitre 9, versets 49 et 50. Dans les Écritures, il y a quelques versets qui ont la réputation d'être particulièrement obscurs et dont l'interprétation divise les théologiens. Nous allons étudier aujourd'hui un de ces versets. Le passage que j'ai choisi se trouve en Marc chapitre 9, verset 49. Je vais aussi inclure le verset 50. Marc chapitre 9, versets 49 et 50. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Car tout homme sera salé de feu. Voilà donc notre verset. Qu'est-ce que cela signifie? Tout homme sera salé de feu. Cette phrase se trouve uniquement dans l'Évangile de Marc. Elle ne contient que quelques mots, mais sa signification est loin d'être claire, même en y réfléchissant longuement. Peu de versets dans la Bible ont reçu autant d'interprétations diverses que celui-ci. Examinons-le attentivement et tentons d'en tirer le sens avec autant de cohérence que possible. Tous seront salés par le feu. Remarquons premièrement que cette phrase concerne tous les hommes. On ne parle pas que de certaines personnes. Tous les hommes seront salés de feu. Tous. Vous, moi et chaque personne sur la terre. Pas seulement les chrétiens, les non-chrétiens aussi. Tous. Jésus a fait une déclaration qui touche tous les êtres humains. Ainsi, toute interprétation de ce verset doit tenir compte de cette observation. Mais quel est ce quelque chose qui concerne tout le monde et que Jésus mentionne dans son discours? On peut avancer, sans trop risquer de se tromper, que ce quelque chose est en rapport avec le feu et le sel, puisque ce sont les deux autres éléments qui se trouvent dans cette déclaration. Le sel et le feu, deux entités naturelles qui affecteront l'humanité entière. Prenons le temps de réfléchir à ces deux choses. Le sel et le feu se retrouvent l'un à côté de l'autre dans une même phrase. Pourquoi? Quel lien existe-t-il entre le sel et le feu? Si nous pouvions connaître pourquoi le sel et le feu sont placés ensemble ici, je crois que nous serions très proches de la pensée de Jésus au moment où il a prononcé ces mots. Considérons la Bible dans son entièreté. À quel endroit, dans la parole de Dieu, trouve-t-on ensemble le sel et le feu? Le sel et le feu forment une paire dans quel contexte biblique? Je n'en connais qu'un seul. Et c'est dans le contexte des sacrifices. Pensez à tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Pensez particulièrement aux sacrifices commandés par Dieu. Il y a un dénominateur commun. Le sel et le feu se retrouvent ensemble sur l'autel des sacrifices. L'Ancien Testament contient de nombreuses pages consacrées aux sacrifices. Les sept premiers chapitres du Lévitique enseignent au peuple juif des règles très détaillées sur la manière de présenter des sacrifices à Dieu. Cinq types d'offrandes y sont mentionnés. L'offrande brûlée, l'offrande végétale, l'offrande de communion, l'offrande d'expiation et l'offrande de la culpabilité. Ces cinq offrandes ont ceci en commun. Des animaux ou de la farine doivent être brûlés sur l'autel. Et il ne faut pas oublier le sel lorsqu'il est question de sacrifice. L'Ancien Testament nous enseigne que tout sacrifice doit être offert avec du sel. Nous lisons en Lévitique chapitre 2, verset 13, qu'il faut ajouter du sel à toute offrande qui est présentée à Dieu. Lévitique chapitre 2, verset 13. tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Voyez que le sel, le feu et les sacrifices vont ensemble. Sans le feu, on ne peut pas offrir de sacrifice. Sans le sel, il n'y a aucun sacrifice que Dieu acceptera. Le feu et le sel sont des éléments obligatoires du système sacrificiel établi par l'Éternel dans l'Ancien Testament. Revenons maintenant à notre verset. Car tout homme sera salé de feu. Notez l'action du feu sur le sel. Être salé de feu. Le feu va se substituer au sel. Tous seront salés. Il s'agit d'une action. L'action d'être salé. Par le feu. Il s'agit d'un nom. Le feu va prendre la place du sel en nous. Comme vous le savez, le sel et le feu sont deux agents de purification. Le sel et le feu vont nous purifier lorsque nous devenons un sacrifice. Le sel et le feu vont exercer leur propriété purificatrice sur chaque individu dans le processus sacrificiel. Chacun sera purifié tant par le sel que par le feu. Et puisque le sel et le feu sont deux éléments qui accompagnent toujours les sacrifices, cela signifie que chaque personne sera un sacrifice. Ceci est très important à retenir. Chaque être humain sera un sacrifice, qu'il soit un croyant ou un non-croyant. Dans cette déclaration, le Seigneur Jésus ne donne aucun choix. Puis au verset 50, Jésus poursuit son discours en se concentrant sur le sel. Après avoir déclaré que tout le monde sera salé de sel, il dit « Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ces mots étaient adressés à ses disciples. Il faut se souvenir du contexte. Marc chapitre 9, versets 33 à 35 nous donne justement ce contexte. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient querellés, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Jésus était dans une maison à Capernaum, en compagnie de ses disciples. Il était en train de leur donner une leçon sur l'humilité jusqu'au verset 49 où il dit « Car tout homme sera salé de feu. » C'était aux 12 exclusivement que Jésus parlait. Vous le savez sans doute, dans le Nouveau Testament, le sel est utilisé comme un symbole pour les enfants de Dieu. On peut prendre comme exemple Matthieu chapitre 5, verset 13, où le Seigneur dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous, mes disciples, vous êtes le sel de la terre. » Et curieusement, à l'intérieur de ce même verset, Jésus pose la question suivante. Si le sel vient à perdre sa saveur, qu'allez-vous faire avec ce sel? Avec quoi le saleront-on? Oui, qui est intéressant, puisque c'est presque la même question que nous retrouvons dans notre passage en Marc chapitre 9, verset 50. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Très bonne question. En effet, comment allez-vous l'assaisonner? Eh bien, en Matthieu chapitre 5, Jésus dit que ce sel doit être jeté dehors, puisqu'il est devenu inutile. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu chapitre 5, verset 13. J'ai mentionné dans l'introduction de cette leçon que la combinaison sel-feu apparaît dans l'Ancien Testament dans tout ce qui touche les sacrifices. Le sel et le feu accompagnent nécessairement tout sacrifice dédié à Dieu. Mais nous retrouvons la combinaison sel-feu dans le Nouveau Testament également. À quel endroit précisément? Dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Après avoir dit « Vous êtes le sel de la terre », Jésus continue avec une autre déclaration. « Vous êtes la lumière du monde ». Parler de lumière, c'est l'équivalent de parler du feu. Au temps de Jésus, la lumière était produite en brûlant de l'huile. Il fallait du feu. Le sel et le feu se rencontrent ainsi à nouveau. Cette fois-ci, la rencontre se fait dans le sermon de Jésus sur la montagne, lorsque Jésus parle du sel de la terre et de la lumière du monde. Que devons-nous comprendre? Rappelez-vous de ce que nous avons dit. Le feu et le sel se rejoignent sur l'autel des sacrifices. Dans le contexte du sermon sur la montagne, cela signifie que chaque croyant doit devenir un sacrifice. Quand Jésus a prononcé son sermon sur la montagne, c'est à ses disciples qu'il parlait, et il voulait nous faire comprendre que chaque disciple se doit d'être un sacrifice pour Dieu. Ce sel concerne donc les sacrifices. Il s'agit en quelque sorte d'un sel sacrificatoire. En Marc chapitre 9, verset 50, Jésus a dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » On pourrait paraphraser de cette façon. Ayez en vous-même ce sel sacrificatoire. C'est ce qui donne aux disciples son authenticité. Si vous avez perdu l'esprit de sacrifice, comment allez-vous vivre les uns pour les autres? Car telle est l'essence du sacrifice, se donner aux autres. Si vous avez l'esprit de sacrifice en vous, il s'ensuit que vous allez vivre en paix les uns avec les autres. Vous ne ressentirez plus le désir d'être le plus grand. On se rappellera que cette section a débuté par une conversation entre Jésus et ses disciples. Le Seigneur leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» verset 33. Cette question mit les disciples dans l'embarras. Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Verset 34. Ils se sont tus parce qu'ils savaient qu'il n'était pas approprié de discuter d'un tel sujet. Si l'esprit de service est en vous, l'esprit de sacrifice, vous n'auriez jamais pensé à vous demander qui est le plus grand d'entre vous. Comment tout cela s'applique-t-il dans nos vies? J'aimerais proposer que tout cela est en lien avec les intentions de Dieu pour les hommes. Vous avez sans doute déjà entendu ces questions universelles. Si Dieu a créé l'homme, quel était son but? Quelle est la raison de notre existence sur la terre? Quelle est la destinée de l'humanité? Ces grandes questions, nous les connaissons, mais malheureusement, peu de gens s'y attardent. Il ne sert à rien de perdre notre temps à penser à ces questions philosophiques, parce qu'il n'y a pas de réponse, certains disent. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aimerais suggérer que la Bible donne certaines réponses. Ainsi, à la question « Quel but Dieu a-t-il pour vous et moi? » la parole de Dieu donne cette réponse. Dieu désire que chaque personne soit un sacrifice. C'est le sens de la phrase « Tout homme sera salé de feu. Tout homme sera un sacrifice. » Dieu ne nous a pas créés pour nous regarder faire à notre tête, vivre selon nos propres envies, sans aucune considération pour sa volonté. Il avait un but en nous créant son image, et son image est révélée par son Fils. « Celui qui m'a vu a vu le Père », affirme Jésus en Jean chapitre 14, verset 9. Et à quoi ressemble ce Jésus? Le Fils de Dieu a aussi dit Je suis venu non pour être servi, mais pour servir, pour donner ma vie en rançon pour tous. » Marc chapitre 10, verset 45. Dans cette déclaration, Jésus révèle clairement le caractère sacrificiel de sa personne et le but de sa mission sur terre. C'était le plan que Dieu avait préparé pour son Fils, c'est-à-dire qu'il devienne un sacrifice pour nos péchés. Il avait aussi un plan pour chacune de nos vies, c'est-à-dire que nous soyons portés par une vie de sacrifice. La nature même de Dieu se caractérise par une volonté constante de se donner. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour s'exprime justement de cette manière, par le don généreux de soi aux autres. Dieu est amour, nous lisons en 1 Jean chapitre 4, verset 8. Et si nous avons été créés à l'image de Dieu, cela signifie que nous avons été créés pour manifester la même attitude. Le dessein que Dieu a pour nous aujourd'hui, dit Paul en Romains chapitre 8, verset 29, c'est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il veut que nous devenions semblables à Jésus. Comment devenons-nous à la ressemblance de Jésus en adoptant la même attitude qui le conduit à se sacrifier pour les autres, en ayant la pensée du Christ qui a accepté d'offrir sa vie en rançon pour l'humanité? C'était le sacrifice suprême. Dieu nous appelle à vivre à l'image de cette vie de sacrifice. Vous savez, j'ai souvent eu ce rêve. Le rêve où chaque individu commencerait à vivre non pas uniquement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Imaginez l'impact que cela aurait pour notre communauté. Essayez de représenter dans votre esprit une société dans laquelle chaque citoyen est animé par un esprit de sacrifice. Une société dans laquelle chacun s'efforce de se donner aux autres, et tous se préoccupent de l'individu dans le besoin. Ce rêve prend la forme d'une vision qui nous est permis d'entretenir lorsque nous parlons de ce feu, du feu sacrificatoire, du feu de Dieu brûlant en nous. Nous percevons donc l'amour de Dieu dans cet esprit de sacrifice. Mais il y a autre chose. Nous y voyons également la sagesse de Dieu. De quelle façon? Dans le fait que le dessein de Dieu pour les hommes ne peut être contrecarré d'aucune façon. Rien ne peut le faire échouer, pas même le péché. Chaque personne sera un sacrifice d'une manière ou d'une autre. Qu'on se le dise, c'était le plan de Dieu depuis le début et il le demeurera jusqu'à la fin. Chacun sera un sacrifice. Chacun sera salé par le feu. Car voyez-vous, le choix qui est devant nous aujourd'hui n'est pas de décider si nous acceptons ou non de devenir un sacrifice. Le choix qui nous est permis de faire ne concerne que le type de sacrifice que nous acceptons de devenir. En Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, le Seigneur Jésus parle de deux chemins. Dans la vie, il existe deux chemins que vous pouvez emprunter. Le premier chemin est difficile, mais il mène à la vie. Le deuxième est facile, mais il mène à la perdition. Il n'y a pas d'autre chemin que vous pouvez prendre. Vous avez à choisir entre ces deux chemins. Mais peu importe votre choix, vous serez un sacrifice pour Dieu. Où est-ce que Jésus voulait souligner quand il a dit « Car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. » Autant le chrétien que le non-chrétien. Un chrétien est salé de feu quand il offre sa vie en sacrifice à Dieu. Mais qu'en est-il du non-chrétien? Comment sera-t-il salé de feu? Il n'y a rien qui le lie à Dieu pour qu'il s'offre en sacrifice. Il faut savoir ici que dans la Bible, le feu représente autant la grâce de Dieu que le jugement de Dieu. tout homme sera salé, soit par le feu de l'Esprit-Saint, soit par le feu du jugement divin. Pour élaborer davantage sur ce point, il est nécessaire de retourner à l'enseignement de Jean le Baptiste. Lisons le passage en Matthieu chapitre 3, verset 11. Voici les paroles de Jean le Baptiste. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Remarquez cette dernière phrase. « Celui qui vient après moi vous baptisera soit avec le Saint-Esprit, soit avec le feu. » En d'autres mots, Jésus va baptiser l'être repentant avec la grâce du Saint-Esprit, mais pour l'impénitent, il le baptisera avec le feu du jugement de Dieu. Il est important de noter que ce verset se trouve dans le contexte du jugement. Ceci devient évident lorsque nous regardons le verset suivant, le verset 12. Jean le Baptiste continue son discours avec les mots suivants. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. L'expression « un feu qui ne s'éteint jamais » est utilisée pour désigner l'enfer. Jésus va amasser son blé dans le grenier. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est le baptême de feu. Le rassemblement du Messie de ceux qui croient en lui constitue son baptême dans le Saint-Esprit. L'action de brûler la paille constitue le baptême de feu des incroyants qui iront en enfer. Quelle que soit la situation, que ce soit la première situation ou la deuxième, Dieu s'en trouve glorifié. Dieu est glorifié, autant dans son amour pour les hommes que dans son jugement contre le mal. Ceux qui sont consumés en sacrifice en enfer glorifient Dieu, peu importe ce qu'ils peuvent bien penser, car c'est là que les revendications de la justice divine et de la sainteté de Dieu sont complètement satisfaites. Un monde où la justice est bafouée n'est pas un monde que Dieu a créé. Un monde où le mal court sans être jugé n'est pas à la gloire de Dieu. Si un gangster peut commettre des meurtres, extorquer de l'argent, s'il peut vivre dans la criminalité sans être jamais puni, alors Dieu n'est pas celui qui est assis sur le trône céleste. Si un malfaiteur peut vivre dans le confort et la facilité, s'il peut amasser une fortune par le vol, s'il peut mourir et recevoir à ses funérailles des hommages d'une foule, comment cela peut-il donner gloire à Dieu? Ne vous laissez pas tromper par les apparences, dit Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un individu aura semé, soyez sûr qu'il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Tout homme sera salé par le feu. Aucun criminel ne pourra s'en tirer impunément, même s'il n'a jamais passé un seul moment en prison de son vivant. Car notre Dieu est un Dieu de sainteté et de justice. Tout malfaiteur sera jugé pour ses actions. Chacun sera salé par le feu, soit par le feu de l'amour de Dieu, soit par le feu du jugement de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons dit que chaque personne sur terre deviendra un sacrifice à la gloire de Dieu. Il y a ici une décision cruciale à prendre. Dieu nous a donné la liberté de choisir le type de sacrifice qui s'appliquera à nous. Nous avons le choix entre deux types de sacrifices. Nous pouvons faire le choix d'être un sacrifice vivant sur terre, selon les instructions de l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ou sinon, nous pouvons faire le choix d'être un sacrifice mourant en enfer. À cet égard, on se rappellera des paroles de Jésus en Matthieu chapitre 10, verset 28. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez plutôt Dieu qui peut détruire le corps et l'âme dans la gêne. Faire périr le corps et l'âme en enfer. Un sacrifice agonisant. Un sacrifice en passe de mourir. Un sacrifice qui détruit en enfer. Il y a plusieurs années, j'ai fait le choix personnel de devenir un sacrifice vivant. J'ai choisi de vivre dans la plénitude de la volonté que Dieu a pour nous et de faire rayonner sa gloire dans ma vie. J'ai alors fait une belle expérience. Dans mon état de sacrifice vivant, ma communion avec Dieu s'est épanouie de plus en plus. Le fait de m'être offert en sacrifice à Dieu m'a rapproché graduellement de lui. J'ai vu que la relation de sacrifice à Créateur m'a permis de développer une communion riche et authentique avec Dieu. Et plus tard, j'ai compris pourquoi. C'est sur le chemin étroit du sacrifice que nous trouvons à être attelés au Christ crucifié. Jésus a dit en Matthieu chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Lorsque deux animaux sont attelés ensemble, ils doivent partager la même charge. Si je prends le joug de Christ, ça signifie que je porte aussi sa croix. Lorsque je suis attelé avec lui de cette manière, marchant côte à côte, tirant la même charge, ressentant les mêmes douleurs, je ne peux faire autrement qu'être en communion avec lui. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Rappelez-vous de ceci. Dans toute cette idée du sacrifice, nous faisons une merveilleuse découverte. Nous découvrons un lieu de communion avec le Seigneur. Nous découvrons un lieu de puissance. Nous découvrons un lieu de repos pour notre âme.